marche du monde. Valérie Nivelon.
La Marche du Monde vous présente Nos années Goulag, une série documentaire inédite coproduite par RFI et France Culture.
Говорит Москва.
Moscou parle.
Дорогие товарищи и друзья.
Chers camarades, chers amis.
Центральный комитет.
Le comité central du Parti de l'Union soviétique.
Совет министров.
Le Conseil des ministres de l'Union soviétique. Le Présidium du Soviet Suprême de l'Union soviétique, à la douleur d'annoncer au parti et à tous les travailleurs de l'Union soviétique que le président du Conseil des ministres de l'Union soviétique, le secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Staline, est décédé le 5 mars à 21h50 des suites d'une longue maladie.
On travaillait. On nettoyait la route de la neige. Et à côté, il y avait un camp d'hommes. C'était un camp pour les malades. Et il y avait donc un haut-parleur dans ce camp. Et de là, le vent nous apportait la musique. Et cette musique était très triste. Et alors, un peu de temps après, on a entendu l'annonce. Et c'était très intéressant de voir comment toute l'équipe réagit. Moi, avec Hélène, on travaillait côte à côte. Et on a été si contentes. Et il y avait une femme biélorusse, une institutrice. Elle s'est mise à pleurer. Nous, ça nous a paru tellement bizarre, ces pleurs.
L'espoir d'un retour.
Le compagnon d'armes et le génial successeur de l'œuvre de Lénine, le maître et le leader du Parti communiste et du peuple soviétique, nous a quittés. Son cœur a cessé de battre.
Tous les prisonniers du Goulag se souviennent de ce jour mémorable, le 5 mars 1953, quand la nouvelle de la mort de Staline est annoncée à l'appel du matin. Tandis que des millions de citoyens soviétiques sont alors en deuil, pour l'Estonienne Mia Jogias, le Lituanien Antanas Seikalis, la Polonaise Zofia Danisiewska et le Hongrois Placide Olofsson, la disparition du petit père des peuples est synonyme d'espoir d'une libération prochaine. Déporté en URSS avec 1 million d'Européens, entre 1939 et 1950, Mia, Antanas, Zofia et Placide sont les témoins de cette libération, de cette longue attente du retour, aux péripéties aussi inattendues qu'insoupçonnées.
Nous avions signé ce papier en septembre, le papier de notre rapatriement, et nous n'avons pu revenir qu'en novembre. Tout de suite se dit « sichas ». Dans ce mot, il y a « chas » qui veut dire « heure ». Mais en Union soviétique, « sichas » ne veut pas dire « dans quelques heures », mais « dans quelques mois ».
Après 10 ans de camp de travail à Briansk, le prêtre hongrois Placide Olofsson est libéré en 1955 et rentre à Budapest. Il ne pourra plus jamais exercer son sacerdoce. Entre-temps, la République de Hongrie, occupée par les soviétiques, est devenue officiellement la République populaire de Hongrie depuis 1949.
Mais au moment où ils composaient déjà le convoi de notre retour, et 1350 Hongrois étaient déjà réunis, Les autres nationalités étaient déjà parties. Il fallait quand même qu'on sache si on nous emmenait plus loin en Sibérie ou si on pouvait revenir chez nous en Hongrie. J'ai donné cette consigne aux autres. Je ne sais pas où ils vont nous emmener, mais une chose est sûre, nous devrons recommencer notre vie. Et notre nouvelle vie ne peut pas commencer avec des plaintes à propos de ce qu'on a souffert en Union soviétique. Nous devons prendre l'habitude de regarder vers l'avant et ne pas regarder éternellement vers l'arrière. Je n'ai pas demandé qu'ils pardonnent les soviétiques, mais qu'ils regardent vers l'avant. Les gens ont accepté ce conseil. C'est de ça qu'on parlait les derniers jours du matin au soir. Mais il y avait un petit groupe qui ne voulait pas accepter ça. Leur chef était d'un petit village à côté de Szombathely et il s'est exprimé ainsi. Si j'ai encore une fois un pistolet entre mes mains, je n'épargnerai pas même les nouveau-nés. Bah, c'était un sous-lieutenant dans l'armée et agronome dans le civil. Je ne pouvais rien y faire. Évidemment, lorsque nous étions déjà dans le convoi, nous étions devenus très copains, mais quand même. Et encore une fois, là aussi, le bon Dieu m'a fait un de ses cadeaux. Je ne le remercierai jamais assez. Nous avons fait un trajet de 14 jours, et vous savez qui était couché à côté de moi ? Béla Kovács, le premier ministre, le président du parti des petits propriétaires. Lui aussi en avait pris pour 25 ans. C'était un homme si cultivé, c'était si intéressant de parler avec lui. On ne faisait que ça du soir au matin, c'était merveilleux.
Już jeżeli cała Rosja jest piekłem, to ten Uzbekistan i to, co myśmy tam przeżyli, to było dno samego piekła.
Si la Russie est un enfer, l'Ouzbékistan, vraiment, c'est le fond de l'enfer.
Było dno straszne.
Et ce que nous avons vécu, c'était terrible.
Właśnie mówię, ja, takie jakieś fragmenty, jakieś takie zdarzenia mi się przypominają.
J'ai des bribes de souvenirs qui me reviennent en mémoire.
No, trudno jest jakoś...
C'est difficile d'oublier tout cela.
Zofia Danisiewska est polonaise. Elle a été déportée avec sa mère, sa sœur et son frère vers l'URSS le 10 février 1940 à l'âge de 8 ans. D'abord en camp de travail près de Gorki, puis en Ouzbékistan dans un camp pour prisonniers politiques. Sa sœur n'a pas survécu.
Mama moja była bardzo chora.
Ma mère était très gravement malade.
I oddała mnie do sierocińca.
Elle m'a confié un orphelinat.
Po prostu nie
parce
przeżyje.
Que elle pensait qu'elle allait mourir. Et avec cet orphelinat, j'étais déportée ailleurs.
Mama została, była, sparaliżowana.
Ma mère, elle est restée. Elle était paralysée, elle avait les typhus, elle a dysenterie.
Żegnały, to właściwie już na zawsze.
On s'est dit adieu.
Dlatego tylko, żebym ja się uratowała.
Elle m'a placée dans cet orphelinat pour me sauver.
Żadnych szans na
on a cru que c'était une chance de survie.
Zofia va bénéficier de l'amnistie concernant les citoyens polonais se trouvant sur le territoire soviétique en août 1941. Mais son orphelinat va bientôt être évacué pour une première étape d'un voyage extraordinaire. Un voyage au long cours qui va sans cesse remettre à plus tard son éventuel retour.
Et moi, avec tout l'orphelinat, j'étais transférée en Perse. Aujourd'hui, c'est l'Iran. On n'est pas resté là-bas longtemps. On nous a mis en quarantaine. Ensuite, par l'Irak, nous avons été en Inde, à Karachi, un peu à Bombay. Et ensuite, on nous a transférés en Afrique, dans les colonies britanniques. Et nous avons pris un bateau pour le Kenya, à Mombasa. Au début, on était en Ouganda. Cet orphelinat se retrouvait dans un quartier qui s'appelait Masindi. Il y avait là 3000 Polonais. Il y avait 8 quartiers. Et notre orphelinat était le 8e. Il y avait une école polonaise, il y avait quelques enseignants qui sont passés par l'Union soviétique. Et à ce Ouganda, nous sommes restés pendant 2 ans et demi. En Ouganda, le climat était terrible, on a attrapé le paludisme. Alors notre orphelinat d'Ouganda a été transféré au Kenya. À Rangai, près de Nakuru, à 13 km de l'équateur. C'était l'orphelinat, c'était la guerre. Mais je pense que, pour moi, c'était la plus belle période de ma vie. Pour moi et pour nous tous. On avait de quoi manger. Personne ne nous criait dessus, personne ne nous insultait. C'était vraiment fantastique. On allait à l'école, on avait des scouts, les troupes artistiques, on assistait à des spectacles, tout le monde y participait, il y avait une chorale, les garçons pouvaient jouer au foot, les filles au volet. Et nous continuons à nous revoir. On s'appelle entre nous les Africains.
Et
nous sommes tous d'accord pour dire qu'on était très heureux.
Moi, j'ai eu 25 ans. Et donc, je savais déjà que mon prochain anniversaire, je le fêterais à la maison. Quand ils m'ont arrêté à Tartu, dans le sous-sol, j'ai fêté mes 20 ans. Ils nous ont libérés. Et donc, en 56, je suis rentrée à la maison. Donc, je suis revenue le 31 mai. Alors, en juin, j'étais déjà à la maison. Tous ensemble. Hélène est revenue peut-être 2 jours plus tard à la gare de Tartu. On s'est dit au revoir comme si rien n'était. On a passé notre jeunesse là-bas et maintenant une nouvelle vie commençait.
Bien qu'elle ait purgé 6 ans de travaux forcés à Vorkuta, dans le camp pour prisonniers particulièrement dangereux de la République des Commis, Mia a été portée par la chance d'avoir traversé toutes les épreuves avec ses amies d'enfance, Rita et Hélène. Et ce lien d'amitié égaye encore aujourd'hui son récit. Sa destination de retour, c'est sa ville de Tartu en Estonie. Mia, 26 ans.
Quand on s'est libérés, nous avons même pu obtenir nos passeports. Mais ce n'est que plus tard que nous avons appris que ces passeports étaient particuliers. Il y avait un numéro qui indiquait qu'on était passé par un camp. Quand on le montrait, la personne savait que comme ça, on ne pouvait pas obtenir un certain type de travail ou aller vivre dans la ville. Et puis, ils nous ont aussi donné de l'argent, juste qu'il fallait pour payer le chemin de Vorkuta jusqu'à Tartu. Comme ça, on a voyagé, on peut dire, gratuitement. On a pris un train, ce n'était plus le même train que celui qui nous a amenés. On a voyagé dans un wagon normal où il y avait beaucoup de monde parce que beaucoup de gens sont libérés à ce moment-là. Vous savez qu'à Vorkuta, il y avait beaucoup de camps. Et à nouveau, il n'y avait que des femmes. Il n'y avait même pas de place pour s'asseoir, sans parler de pouvoir dormir. Donc on a passé quatre nuits comme ça, assises sur nos valises. C'était fin mai. On partait, il y avait encore de la neige, il faisait froid, et puis on s'approchait de Leningrad, et là on voyait les femmes qui travaillaient dans leur jardin, leur potager. Il y avait des lilas qui étaient en fleurs. Ça nous faisait tellement bizarre, parce que ça faisait des années qu'on n'a pas vu des lilas. À la gare de Tartu, on s'est séparés.
Et
le lendemain, ma tante m'a expliqué comment trouver mes parents. Mon père travaillait comme garde forestier. J'avais pris un bus pour y aller. Mon père, je l'ai trouvé dans la cour. Et ma mère était dans la cuisine. Et la première nuit, passée à la maison, mon père m'a laissé son lit. Il m'a dit, tu vas dormir ici. Et c'était tellement mou le matelas que je ne pouvais pas m'endormir. Dans le camp, je me suis habituée à dormir sur des planches de bois. Et donc, je ne pouvais pas m'endormir. Mes parents, ils dormaient déjà et moi, je me suis mise par terre, sur un tapis, et j'ai tellement bien dormi là, par terre.
Nous avons vécu et ressenti plein d'autres choses pendant ce voyage. Par exemple, nous avons fait ce trajet à travers toute l'Union soviétique avec les portes ouvertes. Quand le train s'arrêtait, on allait boire de l'eau et ce genre de choses. Et puis, avec mon dernier salaire que nous avons gagné pendant les 7 derniers jours au camp, parce que pendant ces derniers jours, nous n'acceptons plus de travailler sans être payé, évidemment. Donc j'avais 7 roubles et 80 kopeika, avec lesquels j'ai acheté un café à la station. Enfin bref. À la frontière, nous avons été transférés dans d'autres trains à bestiaux. Et là, ils ont fermé les portes. Mes codétenus ne comprenaient pas. Ils disaient, on a voyagé avec les portes ouvertes à travers toute l'Union soviétique et ils ferment les portes alors qu'on est chez nous. Je dois l'avouer, c'est les gardes qui avaient raison. Ils nous ont fait entrer en cachette dans la caserne de Nyíregyháza. Le train s'est arrêté 3 fois en Hongrie. Et si en novembre 1955, en Hongrie, les gens se rendaient compte qu'on transportait 1350 prisonniers hongrois, au moins 1000 personnes nous auraient attendus à Nyíregyháza, les parents, les femmes, les enfants, les frères. Il fallait qu'ils nous enferment dans le train. Je suis arrivé avec Gézo Hervéi, un codétenu, et il me dit, quand j'étais colonel pendant la guerre, j'étais le commandant de cette gare. Les temps changent, je lui ai dit. Maintenant, tu es prisonnier. Mais à ce moment, il s'est passé quelque chose de terrible, je dois vous raconter. Il était 4h30, nous n'avions pas encore déjeuné, et ils nous ont emmenés au restaurant. On a été séparés en deux groupes, nous étions quand même 1349 personnes. Et moi, je faisais partie du premier groupe. Le camarade policier nous a salués dans notre patrie avec 3 phrases. Il y avait un ancien membre des Croix Fléchées qui voulait chanter l'exhortation, un chant patriotique. On ne pouvait pas chanter ça en 1955. Le camarade commandant a proposé que nous chantions plutôt l'international. Mais celle-là, personne ne la connaissait. À l'époque où nous avons été arrêtés, personne ne chantait l'international. Et donc, nous avons chanté l'hymne national. Mais nous étions convaincus qu'ils allaient nous exécuter à ce moment. Nous avions une table avec un drap blanc, une assiette, des couverts, un morceau de pain, une pomme, un demi-verre de vin, des serveurs qui nous servaient. On se disait, mon Dieu, là, c'est la fin. Puis le deuxième groupe est aussi allé manger, et puis finalement, ils ne nous ont pas tués.
Vous écoutez RFI, La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite du quatrième épisode de notre série documentaire Nos années Goulag, coproduite par RFI et France Culture.
Nous arrivons à 10h15 à la gare de l'Ouest de Budapest. Je me souvenais d'une façon ou d'une autre que le tram 49 passait par là. À l'époque, il n'y avait pas encore de métro. Et effectivement, le tram 49 passait toujours par là. C'est dans la dernière plateforme du tram que nous sommes montés. Les gens nous regardaient. Nous ne savions pas encore qu'en Hongrie, porter la veste ouatée à la soviétique signifiait qu'on appartenait à la milice ouvrière. Mais deux se sont arrêtés à la rue Rakoczy, deux à la place Calvin et le dernier à la place Gellért. Et moi, je suis resté tout seul. Je perdais courage. Il devait être 11h du soir. Imaginez-vous, ma mère avait au-dessus de 80 ans et avait des problèmes cardiaques. Elle ne savait rien de moi depuis des années. Si elle me voyait sur le pas de la porte, elle aurait fait une crise cardiaque. Je ne voulais pas tuer ma mère. Je me suis dit, je vais dormir sur la place Mauritsigmond sur un banc et j'essaierai de rentrer à la maison demain matin. Il pleuvait un peu et puis le 25 novembre, il fait déjà froid. On ne dort pas volontiers dehors. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Sur la dernière plateforme du tram, il y avait un jeune homme avec une gabardine. Je me suis approché et je lui ai dit, « Désolé de vous déranger, mais si vous avez un peu de cœur et un peu de temps, pourriez-vous m'aider ?» Voilà, je n'ose pas rentrer chez ma mère, je reviens de 10 ans de goulag et elle ne sait même pas si je suis encore en vie. Pourriez-vous sonner à cette adresse et si vous voyez une vieille dame vous ouvrir, lui dire que vous avez rencontré son fils, qu'il est en bonne santé et qu'il rentrera bientôt. Je pensais qu'il fallait un intermédiaire pour ne pas lui faire de choc. Et c'est là qu'apparaît le bon Dieu, encore. Il me tend la main. Je m'appelle George Shakhedi. Je suis revenu du goulag soviétique en 1953. Nous n'avons rien dit, mais les prisonniers, vous savez, c'est une véritable corporation. Et nous nous sommes embrassés. Et il a fait ce que je lui demandais parfaitement.
L'espoir d'un retour.
Là, je fais un saut dans l'histoire, car ma mère a réussi à quitter l'Union soviétique par le dernier convoi. Elle a survécu à sa maladie. C'était vraiment miraculeux. Elle est arrivée aussi en Perse, c'est-à-dire en Iran. Elle a travaillé pour l'armée américaine, elle a travaillé dans des casinos ou dans des cantines. Et après, puisqu'il n'y avait plus de transports parce que la guerre était finie, elle se retrouvait
do Libanu, już nie są transporty do Afryki, do Libanu ci ludzie przyjechali.
Et commencer à faire des démarches pour me faire rapatrier en Pologne, d'Afrique.
Zofia Danisowska se trouve au Kenya, où son orphelinat était évacué depuis 1941. Pendant plus de 6 ans, sa mère va multiplier les démarches afin de la retrouver pour la faire rentrer en Pologne.
Et c'était une chose difficile. Elle a envoyé une lettre au président polonais en exil à Londres, Raczkiewicz, car en Pologne, il y avait déjà un gouvernement imposé par l'Union soviétique. Donc elle a dit au président Raczkiewicz que le fils est mort en guerre, qu'une fille est morte de faim en Russie et qu'elle ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ni son mari, ni ses fils, et qu'il aide à me faire revenir d'Afrique. Et le cabinet du président a fait traduire en anglais et a envoyé la lettre à la reine d'Angleterre. Celle qui a vécu 102 ans. Et la reine a eu pitié d'une petite fille comme moi, alors Felina, et a donné l'ordre de me faire sortir de là. Elle a couvert tous les frais de mon voyage. Ça s'est vraiment passé comme ça. Mais on était déjà en 47. Il y a eu beaucoup, beaucoup de correspondances. D'ailleurs, j'ai gardé quelques lettres, mais pas toutes. Alors, on m'a mis dans le train. J'avais un peu appris l'anglais dans cet orphelinat. Je dirais encore qu'il y avait une première classe pour les Blancs, une deuxième classe pour les Indiens et une troisième classe pour les Noirs. C'était vraiment la ségrégation de l'époque. Alors, j'étais en première classe dans le wagon pour les Blancs. Je pouvais dire simplement que j'étais polonaise et que j'allais rejoindre ma mère. Et je me suis retrouvée à Nairobi, la capitale du Kenya. Là, je suis descendue du train, je me suis trouvée sur le quai, il n'y avait personne. Et j'avais
14-15
ans. Mais le chef de la gare a fini par s'intéresser à moi, il a téléphoné, alors un taxi m'a conduit dans un hôtel. À Nairobi, il y avait un consulat polonais. Il savait tout. Le taxi est arrivé, m'a conduit à l'hôtel. On m'a interdit de quitter la chambre, de ne pas bouger. Que Dieu me préserve. Et aujourd'hui, je regrette. J'aurais dû sortir et visiter Nairobi au lieu de rester enfermée. Mais j'avais peur, à l'époque, qu'il m'arrive quelque chose. J'ai fini par arriver chez ma mère, mais pas tout de suite. Nous avons traversé le canal de Suez. À Port Said, sur notre bateau, un officier polonais est monté à bord. Et cet officier polonais est arrivé. Il avait des papiers pour me prendre. Ils m'ont vérifié, le capitaine du bateau. Est-ce que c'est moi ou pas moi? Je devais descendre du bateau pour être enrôlé, incorporé dans l'armée polonaise pendant un mois. Et pourquoi? Parce qu'il y avait toujours la guerre entre Israël et la Palestine. Il n'y a que des militaires qui pouvaient monter dans le train, pas de civils. Donc, comme il y avait des officiers et des soldats polonais qui venaient rejoindre leur famille au Liban, alors ils m'ont placé sous la tutelle d'un officier. Et je suis arrivée au Liban chez maman. Je me souviens lorsqu'à Beyrouth, le train est entré en gare. Nous sommes montés dans un camion pour Ajaltoun. C'était une petite ville. Une petite station balnéaire. Cet officier, le chauffeur est descendu du camion et là une femme s'est approchée et passée. Il lui a demandé, est-ce que vous connaissez Madame Kutkova? Et cette femme a dit, c'est moi, Kutkova. Et c'est alors que j'ai reconnu ma mère. Jésus, quelle retrouvaille. La foule pleurait. Tout le monde pleurait. Tout le monde s'étonnait que ma mère a pu faire venir son enfant d'Afrique, de si loin. Ben,
Ale to wszystko było strasznie dramatyczne.
Voilà mon histoire, mais tout ceci était vraiment dramatique.
Trwałe urazy w mojej świadomości, naprawdę ja to
j'ai des traumatismes très profonds.
Ja na przykład do 40 roku życia
je peux vous dire que jusqu'à l'âge de 40 ans, j'achetais du pain
et
je le faisais sécher, comme on dit en polonais, pour l'heure noire.
Te trwałe ślady naprawdę zostały. Na przykład ja z innymi sybirakami rozmawiam.
Pour vous dire que je suis marquée de façon indélébile.
Rentré à Budapest depuis 1955, le père Placide Lovson ne peut pratiquer son culte car la religion catholique, comme toutes les religions, est réprimée et interdite dans la Hongrie devenue communiste.
Un jour, dans le tram 6, où je discutais avec l'un de mes anciens codétenus, un homme nous interpelle. Il était assis et lui était debout. Il nous dit qu'il était désolé de nous interrompre, mais qu'il avait entendu que nous avions été prisonniers. Il a dit qu'il était chef d'une unité de production qui fabriquait des coffres. Et j'ai ajouté que je cherchais un emploi. Et il cherchait un ouvrier qui pouvait travailler avec une scie circulaire. Si demain tu es là à 6h30, je t'embauche, il me dit. Donc presque dès le premier instant, j'ai travaillé comme ouvrier spécialisé. Je me suis dit quand même, il faut que je fasse ça correctement. Si quelqu'un d'autre peut le faire, moi, avec mes 3 diplômes, je peux le faire aussi. Je ne vais pas me faire happer par la machine. 3 mois plus tard, ou quelque chose comme ça, quand j'ai commencé à m'y faire, il y a eu le mouvement stakhanoviste. Vous savez ce que c'est? C'est n'importe quoi. Dans cette usine, on devait s'engager à produire 200% de la norme pendant 6 mois. C'était ça, le mouvement stakhanoviste. J'en ai parlé avec mon assistante et j'ai signé cet engagement de 6 mois à 200%. Je n'étais pourtant pas totalement fou. Je savais déjà que le contremaître, qui était aussi le secrétaire du parti à l'usine, finissait sa dernière année de collège. Ses devoirs de russe, de hongrois, c'était moi qui les faisais à sa place. Et même pas pendant mon temps de travail, mais après être rentré chez moi le soir. Donc, mon contremaître n'a jamais contrôlé ce que je produisais et inscrivait toujours les 200%. Et c'est comme ça que j'avais toujours mes 200% ou mes 300%. Et donc, j'aurais dû recevoir l'étoile rouge stakhanoviste, la récompense.
Plus de 7 personnes.
Quand est-ce que vous avez été libéré en 1955? J'avais l'impression que tous les villages, les 2 villages, sont venus m'accueillir. J'en ai pleuré et tout le monde s'est mis à pleurer. Après, ils m'ont dit... Quand ils t'ont arrêté, on pensait que on était tous cuits. On pensait que ton frère et toi, vous alliez tout raconter. Et donc les gens nous respectaient beaucoup parce qu'on a tenu bon et on n'a trahi personne. Or tout le monde savait que tout le village soutenait les partisans.
Amnistie en 1955, suite à la mort de Staline, Antanas Seikalis sort des camps de travail du Goulag où il a passé 5 ans. Il rentre en Lituanie, mais son étiquette de nationaliste complique sa réinsertion. C'est seulement à partir de 1990, avec la fin du régime soviétique, qu'il a le sentiment de recommencer à vivre. Et c'est à ce moment-là qu'il arrivera à obtenir l'accès à son dossier, conservé dans les archives du KGB de Vilnius.
Ah, Mogurasko?
Vous voulez que je continue?
Так я два года еще не было дела, так мне не дали еще. Когда я узнал, я пошел прямо к этому прокурору.
Quand j'ai appris l'existence de mon dossier,
прямо прокурору.
Je suis allé voir le procureur.
Бокучонис, его фамилия.
Il s'appelait Бокучонис.
И ему так. И что, сволочь?
Et je lui dis.
Почему ты так делаешь?
Салопар.
Я тебе не враг сейчас, сейчас с тобой.
Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me faire lire mon dossier?
De
toute manière, c'est fini tout ça. Et bien, 5 minutes plus tard, il m'a apporté une autorisation signée par les personnes les plus haut placées. Quand j'ai eu enfin accès aux archives,
целых два года я никак не мог прочитать свой материал, свое дело,
c'était déjà
autorisé. Потому что мне объявили, что моего дела нету.
Mais pendant deux ans, on me disait que mon dossier était perdu quelque part. Soit il avait été anéanti, comme on me disait.
Архив был.
Mais ce n'est pas vrai.
Но
le dossier était là.
Тот прокурор,
mais le procureur à qui j'ai fait la demande,
бывший советский прокурор, который временно работал,
était un procureur soviétique.
Он испугался, потому что
il a eu peur de me faire lire mon dossier.
Меня преследовали не так просто преследовали.
Parce qu'ils avaient l'intention de m'emprisonner.
Полы,
vous savez que en 1970, j'ai subi une perquisition très très dure. On m'a même cassé le plancher pendant cette perquisition. Et ils avaient l'intention de m'emprisonner encore une fois. Et l'ordre avait été donné par ce même procureur. Mais dans cet archive, j'avais des amis qui y travaillaient, et je leur ai dit, ils n'arrivent pas à retrouver mon dossier. Et puis il y avait une section qui s'appelait section des réhabilités.
За что и как?
Réhabiliter pourquoi et
я написал заявление.
Comment, je n'en sais rien, mais j'ai écrit une demande.
Что прошу вернуть мне библиотеку, которую забрали.
Pour qu'on me rende toute ma bibliothèque qui avait été confisquée pendant la perquisition. Après ma plainte, on me dit bon, on va retrouver ton dossier et une demi-heure après, on m'apporte mon dossier en 8 volumes. Non, pardon, en 7 volumes.
Ну я там Посмотрел, быстро перевернул.
J'ai commencé à feuilleter ce dossier.
Вы принесли мне кофе и еще один том.
Pendant une heure, puis on m'apporte une tasse de café et
это наблюдение, том наблюдения.
Un autre volume
où
on raconte toute l'histoire de la surveillance qui était organisée à mon égard.
Сейчас этот том, восьмой том.
Eh bien, ce huitième volume, c'était la dernière page qui était la plus intéressante. Et là, j'ai lu une attestation qui disait que j'étais un élément très dangereux et qu'il n'y avait aucun espoir de me rééduquer dans le sens de davantage de patriotisme soviétique.
Ну, я обнаружил список всех этих агентов, которые меня с самого сначала,
j'ai retrouvé la liste de tous les agents qui me surveillaient pendant 15 ans, jusqu'à 1989. Ils étaient 12.
Клички.
Vous imaginez?
Всех не знаю.
J'ai vu que leur nom de code.
Когда я учился в школе,
ce qui m'a vraiment frappé, c'est que
quand
j'étais encore
lycéen,
on m'a envoyé de mon lycée pour les activités antisoviétiques et je n'avais pas le droit de refaire mes études. Et puis après, j'ai trouvé un cours du soir.
Там училась со мной очень красивая девушка.
Et puis là, il y avait une jeune fille qui était vraiment très belle. J'étais un peu amoureux d'elle et elle aussi, je crois.
Один раз я ее целовал, и она почувствовала, что у меня пистолет здесь.
Un jour, quand on s'embrassait, il a senti que j'avais un pistolet.
Je n'ai pas montré ce pistolet. Маленький, Walter.
Je lui ai même montré ce pistolet pour me faire plus important et plus intéressant. Et puis je lis à mon grand étonnement qu'il avait rapporté toutes ces informations. Et au moment de l'arrestation, les tchéquistes avaient très peur que je sorte ce pistolet et que je ne commence à tirer.
Et
bien, quand j'ai lu ça, ça a été un choc.
Là,
je peux vous dire que ça m'a fait mal. Elle était belle, cette fille. Tellement belle. Quand je suis rentré en Lituanie après le camp, à l'époque, je n'en savais rien encore. Je n'avais pas encore lu le dossier me concernant.
Et
avec ma première paye, je me suis acheté un vélo et je suis allé en ville. Et là, je l'ai rencontré.
Ну она прямо мне на шею плакать начала, значит, ой, как хорошо я.
Elle se jetait dans mes bras. Et elle s'est mise à pleurer en disant.
Она не открыла ни фамилию свою, ни.
Je suis tellement heureuse que tu sois de retour, mais elle m'a rien dit. Elle ne m'a pas dit son nom, elle m'a pas dit son adresse.
Ничего она мне не сказала.
Elle ne m'a rien dit. Elle m'a dit, on va sans doute se revoir.
Так это был самый
главный. Bien écoutez, cet épisode.
Для меня стоило переживать.
Ça a été un véritable choc. Parce que même quand j'étais au camp, je rêvais à cette fille. Vous pouvez pas savoir comment elle était belle.
Вот предательница была.
Mais c'était un traître.
Un système tyrannique se construit sur les mouchards. Moi, j'ai appris récemment, en consultant mon dossier, qui sont actuellement accessibles, que j'ai été mouchardé par trois de mes frères bénédictins. Sincèrement, je n'en veux même pas aux soldats, aux gardiens soviétiques. Ils avaient juste une occupation peu élégante. C'était leur obligation que de me cogner. Encore une chose, il y avait une jeune femme hongroise de Transcarpathie, en Ukraine. Elle était notre interprète pendant les interrogatoires. Je me souviens, elle s'appelait Esther Tomás. Je n'avais jamais entendu autant d'obscénité sortir de la bouche d'une femme. Elle me couvrait d'injures. De temps en temps, on nous sortait dans le couloir de la prison et on nous approchait d'un robinet pour nous laver. Je me souviens qu'une fois, j'ai dû enlever ma chemise et j'ai vu sur ma peau des traces grandes comme des fers à cheval. Vous savez, en 1946, les chaussures à talons en verre étaient à la mode. Et c'est avec ces talons qu'elles dansaient sur moi quand je m'évanouissais pendant les interrogatoires. Même elle, je ne lui en veux pas. Mais c'est très intéressant. Plus tard, à Lvov, à Lemberg, dans le camp de transit qui était dans une école désaffectée, nous étions plusieurs milliers. Et en passant d'un bâtiment à l'autre, j'aperçois cette beauté blonde, notre interprète. Je lui fais signe et elle me répond en me signalant qu'elle en avait pris pour 10 ans. C'est ça, l'Union soviétique.
Les espoir d'un retour est le dernier épisode de notre série documentaire « Nos années Goulag » avec les témoignages de Placide Lovson, Mia Yogias, Ontana Seikalis et Zofia Danizouska. Conseiller historique, Alain Blum. Une série coproduite par RFI et France Culture à partir des archives sonores du Goulag. Les archives sonores du Goulag sont le fruit d'une enquête sans précédent menée par une équipe de 13 chercheurs de 8 nationalités différentes et coordonnée par le CERSEC, le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européen. En collaboration avec RFI, notre équipe a recueilli plus de 160 témoignages en Europe centrale et orientale, également au Kazakhstan et en Sibérie. Attachée d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Valérie Nivelon, mixé par Olivier Dupré, réalisé par Christine Robert et adapté par Cécile Pompeani pour RFI. Nos années Goulag sont à retrouver sur les pages RFI et Facebook de La Marche du Monde. Téléchargez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.